Utopod 004, 28 avril 2007. Les noces d'orage de Jonas Lenne. Première partie. Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce quatrième numéro d'Utopod, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Je m'appelle Marc Tiefenauer, et je coproduis ce podcast avec Lucas Moreno. Vous connaissez peut-être déjà le principe de notre émission, mais je le rappelle brièvement. À chaque épisode, nous proposons la lecture d'une nouvelle francophone de science-fiction, de fantastique, de fantasy ou d'un genre littéraire apparenté. Si vous voulez en savoir plus sur notre fonctionnement, nous vous invitons à faire un petit tour sur le site officiel de l'émission www.utopod.com. Le texte que nous vous proposons aujourd'hui, Les Noces d'Orage de Jonas Lenne, est paru une première fois en septembre 1999 dans l'anthologie Jour de l'an 1000 aux éditions de Steve Eknen. Nous vous le livrons en deux fois, la première partie aujourd'hui, la seconde dans notre prochaine émission. Jonas Lenne est né en 1967. Il est écrivain professionnel depuis 10 ans et il est l'auteur d'une cinquantaine de nouvelles parues notamment dans les revues Asphodal, Black Mamba, Emblème, Fairies, Galaxy, Lunatic ou encore le Codex Atlanticus, spécialisé dans les nouvelles lovecraftiennes. On trouve également ses écrits dans des anthologies parues entre autres chez J'ai lu, à l'Oxymore, à l'Œil du Sphinx et chez Steve Eknen. Il a publié son premier roman, La Spirale de Lug, en 2005 aux éditions La Clé d'Argent. Puis Manhattan Stories, l'année passée aux moutons électriques. Son troisième roman, Le Mausolée de chair, vient de paraître fin avril chez l'éditeur qu'il avait accueilli pour son premier roman, La Clé d'Argent. En 1998, il reçoit le prix Infini pour sa nouvelle Quand les dieux mènent boire leurs chevaux. Et quatre ans plus tard, son travail se voit à nouveau récompensé puisqu'il reçoit le prix Imaginal pour sa nouvelle Le sang des titanides. La lecture du texte d'aujourd'hui est l'œuvre de Rita Gay, que vous connaissez déjà puisque c'est elle qui a assuré la mise en voix des deux précédents épisodes du Topod. En bref, Rita Gay est comédienne professionnelle. Elle a travaillé pour le théâtre, le cinéma et la radio. Elle s'est spécialisée dans l'adaptation vocale d'œuvres littéraires. Vous trouverez l'adresse de son site dans l'article du Topod qui présente l'émission d'aujourd'hui. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Jonas pour sa gentillesse et son enthousiasme, et souhaitons bien sûr un grand succès à son nouveau roman, Le Mausolée de chair. Et maintenant, rangez votre grimoire, planquez les osselets et ouvrez bien vos oreilles. Place à la littérature.
Les Noces d'Orage de Jonas Lenne. Première partie. Arrête-toi un instant, Sifa. Une ronce a dû s'accrocher dans ma robe et me griffe le mollet à chaque pas que je fais. Non, laisse cela. Je vais y arriver toute seule. Serre-toi plutôt contre moi. J'ai besoin de sentir ta chaleur. Ah, voilà, je la tiens. Ce n'était qu'un chardon, avec tout de même de fameuses épines, mais rien en comparaison de celles dont fut coiffé notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous pouvons repartir maintenant. Dis-moi donc ce que tu vois, droit devant. Si ma mémoire est bonne, tu dois apercevoir la pierre plate au milieu de la bruyère. Oui. Cette rouelle grise posée sur la lande comme une pièce tombée de la bourse d'un géant. Nous allons encore marcher jusqu'à elle et nous nous y reposerons. Ensuite nous rentrerons. Tu sais, mes vieilles jambes se fatiguent vite. Autrefois, lorsque j'avais ton âge, elles étaient vigoureuses, autant sinon plus que celles d'un homme. En une journée, je pouvais couvrir la distance qui sépare notre moutier du village de Hor. Comme je te le dis. En ce temps-là, je défiais les garçons à la lutte. Et crois-moi, j'en ai forcé plus d'un à mordre la poussière. Là, nous y sommes. Aide-moi à m'asseoir, veux-tu, et installe-toi à côté de moi. À présent, respire cet air chargé d'embrun qui nous vient du large. Goûte la caresse du soleil qui a réchauffé la pierre pour nous. Ah, quel bonheur d'être ici. Maintes fois, je me suis assis sur ce rocher. Ce ne fut longtemps qu'une étape durant les longues marches que j'entreprenais pour porter la bonne nouvelle des évangiles aux habitants de cette région. Aujourd'hui, elle est une limite, une borne qui m'indique de rebrousser chemin. Chaque fois que je m'arrêtais ici, je tournais mon regard vers la mer. Par temps clair, j'essayais de voir les côtes de la terre qui m'a vu naître. En vain. Maintenant que mes yeux se sont éteints, j'ai compris que c'est avec le cœur qu'on voit le mieux ce qui a de l'importance. Dis-moi, avant de quitter les tiens pour rejoindre notre monastère, as-tu jamais aimé un garçon ? Eh bien, qu'est-ce donc ? Pourquoi ce trouble ? Il n'y a guère de honte à avoir, mon enfant. Après tout, que faisons-nous, nous autres moniales, sinon chérir un homme ? Il est Dieu, certes, mais il s'est fait homme. Ne l'oublie pas. Pourquoi se serait-il incarné pour ensuite nous demander d'unir la chair ? Si tu n'es pas trop lasse d'entendre ma voix, je vais te raconter une histoire que personne d'autre n'a jamais entendue. Veux-tu ? Bien. C'était il y a très longtemps. 54 hivers exactement. À l'époque, j'ignorais jusqu'au nom du Christ. Plus tard, quand j'ai rejoint nos sœurs, j'ai appris le compute et j'ai pu calculer que cela s'était passé en l'an 1000 de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais 13 hivers, un âge où l'on s'imagine éternel. Mon clan vivait de la pêche et cultivait les terres de mon père, au nord des grands fjords. Notre famille était ancienne et puissante et je savais, comme il sied à une adolescente viking, récapituler notre lignage sur un nombre respectable de générations. Au dernier jour du printemps, un matin d'obscure mémoire, Fenrir le Fort vint nous rendre visite. Aucun homme de son sang n'avait franchi notre seuil depuis la mort de Gongu à la barbe fourchue. L'histoire était ancienne. Lors d'une assemblée des hommes libres, ceux qu'on nomme les Bondi, une soulerie avait dégénéré en rixe. Un mauvais coup avait envoyé Gongu rejoindre nos fiers ancêtres. La brèche ainsi ouverte dans notre clan, ne pouvant être refermée ni par une conciliation ni par un dédommagement en nature, nos hommes avaient réclamé la vengeance du sang. Avant la fin de l'été, 7 bondis, dont 3 de notre famille, perdirent la vie. Mais le temps passa et tous les témoins du drame finirent par rejoindre notre bisaïeul. Et ce jour-là, Fenrir venait demander notre pardon. Il était sans escorte et sans armes, afin de ne pas risquer de provoquer notre colère. D'emblée, il posa sur moi de petits yeux porcins où brillait une froide lueur de raison. Je les aurais arrachés et précipités dans la fosse à feu, tant ils me dégoûtèrent. Mais je baissai les miens, consciente du dessein qui amenait notre visiteur. Mon père mit en perse un tonneau de bière épicée qu'ils burent ensemble, partageant le même gobelet. Après avoir demandé aux femmes et aux enfants de sortir de la demeure afin de les laisser seuls, ils parlèrent longtemps. Quelques éclats de voix filtrèrent de leur discussion. Lorsque la porte de notre ferme s'ouvrit enfin, les deux hommes arboraient un sourire qui ne me dit rien de bon. Mon père me fit signe d'approcher. Comme je lui obéissais, il me prit sous le menton et m'embrassa. « Inga ! Nous avons bu pour sceller la réconciliation. Fenrir et moi avons décidé de ton mariage avec Soustre, son fils. Les querelles qui empoisonnaient les relations de nos deux clans ont fait leur temps. Nos deux fortunes vont être mêlées. La nouvelle sera proclamée au cours de la prochaine assemblée saisonnière. » Je mordis mes lèvres jusqu'au sang afin de ne pas crier, ce qui aurait de toute façon été inutile. « Vois-tu, Sifa, pour ce qui est du mariage, les traditions de mon peuple ne laissent rien au hasard et se soucient rarement du consentement des intéressés, contrairement à ce que prône notre sainte mère l'Église. » Ravalant ma colère, je fonçai vers la grange pour que personne ne me vît pleurer. Quand toutes les larmes de mon corps eurent coulé sur mes joues, je décidai d'aller chasser au vol pour épuiser mon amertume. Je croyais être celle de ces enfants que mon père aimait le mieux, et pourtant il venait de me trahir. Je décrochai de son perchoir le faucon qu'il avait dressé pour moi, et caressai un long moment le plumage blanc parsemé de taches noires en forme de pointe de flèche. Puis je gagnai l'enclos où j'enfourchai mon cheval avant de prendre le chemin des hauts plateaux situés en surplomb du bras de mer. Jusqu'au soir, je lançai mon oiseau de proie sur tout ce qui bougeait dans la bruyère, entre les touffes de genévriers et les bosquets de bouleaux nains. Je revins à la nuit, éreinté et transi. Deux lièvres gonflaient ma fauconnière. Ce soir-là, je ne touchais pas au repas. J'inventai même une douleur à la tête pour pouvoir me coucher plus tôt. Ma mère vint me rejoindre quelque temps après. Elle s'assit sur ma couche et m'expliqua que Fenrir était chargé d'arranger les conditions du lien sacré. Le mariage aura lieu à la fin de l'été, après le Thing, l'assemblée saisonnière des hommes libres. D'ici là, nous devrons brasser la bière des fiançailles. Maman, lui demandai-je en m'efforçant de contenir le chagrin qui me nouait la gorge, est-ce que ton mariage avec papa s'est passé de la même façon? Est-ce qu'il a été décidé sans qu'on s'inquiète de ce que tu pensais? Elle baissa les yeux et soupira longuement. Ainsi vont les choses, mon amour. Mais je n'ai jamais eu à le regretter, il n'y a pas d'homme plus doux que ton père. Soustre est plus laid qu'un troll. Il est brutal, et ses façons sont celles d'un sanglier. Il me fait peur. Je ne pus contenir plus longtemps ma peine. Ma mère me serra dans ses bras et me cajola tendrement en chantonnant une berceuse. D'autres larmes que les miennes coulèrent sur mon front tandis que je m'endormais. Dans le secret de mon âme, je n'ai jamais consenti à cette union. Je connaissais mon futur époux. Je l'avais vu à la dernière assemblée. Soustre, le demi-troll, le guerrier fauve, le berserkre. Il était semblable à son père par l'apparence et le caractère. Un homme disgracieux, cruel et redouté qui ne vivait que pour les expéditions vikings et les campagnes de pillage. Mais mon avis ne comptait pas. Mon père aussi aurait préféré me voir mariée à un autre, du moins j'aime à le penser. Mais le poids de la coutume était terrible et un refus aurait pu ranimer la querelle ancestrale. Fenrir s'était humilié en demandant pardon. Rien ne pouvait lui être refusé. C'est la première et l'unique fois que je vis mon père faire preuve de pusillanimité. Il fallut donc me résoudre à goûter les plaisirs d'un dernier été passé au milieu des miens. Bientôt je ne bénéficierai plus de la libéralité de mon père, qui m'autorisait à courir les marais et les bois en compagnie de mes frères. Avec Snorri et Njal, j'avais fait 1000 courses, occupé mes journées à chasser, faucons au poing, ou à délester les nids de leurs œufs, à l'aplomb des falaises, me balançant sans peur au bout de longues cordes. Bientôt j'entrerai dans la maison de Fenrir. Bientôt je devrai m'asseoir, bien plus qu'il ne me plaisait, devant le bois du métier à tisser. Avec Solmanâtre, le mois du soleil, vint le temps de l'assemblée des hommes libres. Je ne le savais pas encore, mais Loki, le facétieux, s'apprêtait à poser la main sur mon destin. Cette année-là, le Thing se déroulait sur nos terres, à l'orée de la forêt de Bouleau, dans un lieu assez vaste pour accueillir tous les bondis du district, dont certains étaient accompagnés de leurs familles et de leurs serfs. En quelques heures, la plaine se hérissa de tentes montées sur des armatures de bois. Après la célébration des rituels religieux, mon père, élu pour présider, récita la loi, comme le veut la coutume. Nous autres femmes ne pouvions siéger, mais connaissant bien le terrain, et pour cause, je trouvai à me dissimuler au bord de la rivière, dans le feuillage vert bleuté d'un buisson de petits saules. Ainsi, je ne manquai rien des débats. Après avoir épuisé les questions d'intérêt général, l'assemblée aborda les affaires privées. Comme toujours, les contentieux étaient nombreux, certains remontaient parfois à plusieurs années. Chaque bondi ayant un droit absolu de libre parole, les discussions furent bruyantes et souvent houleuses. Dans cette joute impressionnante, gare à celui qui n'avait pas le verbe « haut ». À plusieurs reprises, les mots cédèrent le pas au coup de poing, sans pour autant que cela dégénéra complètement. L'annonce de mes épousailles avec Soustre fut accueillie par un joyeux tumulte qui, heureusement, couvrit les jurons que je ne pus retenir. Et clôtura la journée. Chacun regagna ensuite ses baraquements, seul ou en compagnie d'amis invités à boire, pour échanger des nouvelles et entendre les récits d'exploits et de voyages dans des contrées lointaines. Le lendemain matin, une partie de Knatlaikr fut disputée. Une aire de jeu avait été préparée pour l'occasion. On avait arraché à la terre tout ce qui n'était pas de l'herbe, retirer les cailloux et damer le sol avec de gros rondins de frêne. Une foule était massée autour de l'aire de jeu. Les participants, séparés en deux équipes, ne portaient que leurs caleçons de laine et leurs chausses de cuir. Soustre, Fenrir et mon père concouraient dans le même camp. Tandis qu'il échauffait ses muscles, Soustre parada devant moi tel un coq de bruyère à la saison des amours. Son torse et ses bras, à l'image de son visage, portaient de nombreuses traces des combats auxquels il avait pris part. Il les exhibait comme une femme l'aurait fait de ses parures. Affectant une moue chargée d'indifférence, je m'efforçai de lui montrer que je n'étais pas de celles qui se pâment devant de tels appâts. Au fond de moi, je priais même pour que le jeu fût particulièrement brutal et que Soustre y reçût une blessure mortelle. À ma grande joie, les coups des loyaux plurent averses. Tandis qu'il tentait d'intercepter la balle de crin et de cuir, Soustre fut renversé par les deux fils d'Otter le Chauve, dont l'un avait déjà ramassé un méchant coup sur le crâne. Un homme normalement constitué ne s'en serait pas tiré sans un membre brisé. Soustre se releva, un peu sonné, certes, mais prêt à repartir à l'assaut. La partie fut âpre et violente, mais il y eut tout de même de beaux gestes et de magnifiques moments de jeu. Un joueur se distingua à plusieurs reprises, un jeune homme qui faisait preuve d'une dextérité et d'une rapidité peu communes, ainsi que d'une admirable aptitude à esquiver les attaques adverses. Alors que Soustre encaissait et rendait coup pour coup des pieds, des poings ou de la tête, celui-là évitait le moindre contact, feintait pour passer un adversaire, bondissait comme un renard en emportant la balle vers son camp. « Qui est-ce ? » demandai-je à mes frères. « Wotan, » répondirent-ils en chœur. « Il n'a que 16 hivers, » ajouta Snorri, enthousiaste, « mais on dit que sa vaillance précoce lui vaudra un jour la gloire d'une saga. » Comme je montrais de l'intérêt, Njal renchérit. Quand il avait 7 hivers, il s'est dissimulé à bord du Knur, le bateau de son père qui partait en expédition vers l'ouest. Un homme de l'équipage l'a débusqué au milieu de la cargaison. Mais il était trop tard pour le ramener. Wotan a participé à la campagne. Je n'avais jamais entendu parler de lui, ou bien je ne m'en souvenais plus. Mais une chose est sûre. Posant à nouveau mon regard sur lui, je sus qu'il était celui que mon cœur et mon corps avaient élu. Wotan. Tout en le dévorant des yeux, je murmurais son nom avec délectation. Il était si doux à entendre. Wotan évoquait une caresse sur ma peau, l'odeur balsamique des pins dans mes narines, la tiédeur du vent du sud dans mes cheveux, la saveur des myrtilles et du miel dans ma bouche. J'en eus la chair de poule. Je le regardais courir, sauter, dissimulant à peine l'émoi que la vue de sa poitrine lisse et perlée de sueur faisait naître au bas de mon ventre. La partie s'acheva dans une mêlée générale, Soustre ayant fracassé le bras de Sigurtr, fils aîné d'Olafre le Bègue, avec la batte de bois servant à intercepter et renvoyer la balle. Trois jeunes bondis avaient entrepris d'escalader le berserkre. L'un essayait de le mordre à la gorge, un autre, juché sur ses épaules, enfonçait les doigts dans ses yeux. Un dernier, enfin, s'échinait ridiculement à tenter de déséquilibrer cette montagne de chair. Quand Soustre se mit soudain à tourner sur lui-même en bramant comme un cerf en rut, la grappe humaine se disloqua. La bagarre cessa bientôt, laissant quelques hommes allongés sur la terre battue et une multitude de blessures sanguinolentes plus ou moins sérieuses. Wotan n'avait pas pris part à cette échauffourée digne d'une bande de rustres indécrottables. Je me faufilai jusqu'à lui tandis qu'il se frictionnait les épaules et les bras avec un carré de drap, assis sur un banc. Je l'imaginais à la rivière, occupé à se laver de la sueur et de la poussière qui couvrait son torse. Comme je lui tendais ses pantalons et sa tunique d'une main tremblante, il me regarda longuement, d'une telle façon que je ne pus dire dans l'instant si mon geste l'avait contrarié ou si mon apparition l'avait ému. Son air de poisson frit fit place à un sourire, puis à un rire qui, si je n'avais eu de solides jambes, comme je te l'ai déjà dit, m'aurait probablement fait tomber à la renverse. Ses cheveux étaient blonds et bouclés, les traits de son visage fins et déliés comme la plus belle écriture runique. Le bleu de ses yeux tirait sur la cendre, pareil au vif argent d'un lourd ciel d'hiver. Et son rire résonnait comme celui des vieux combattants. Lorsque nos regards se dénouèrent, je compris que des jours terribles se préparaient. Pourtant, la délibération confuse qui opposa mes sens à ma raison tourna à l'avantage des premiers. J'acceptai de jouer au jeu ambigu d'une séduction discrète et sans lendemain. Jusqu'à la fin du Thing, et bien que Wutan fût au courant de mon destin nuptial, nous fîmes en sorte de nous trouver ensemble le plus souvent possible. Toutes les excuses étaient bonnes. Wutan se prit même d'amitié pour mes frères et leur rendit visite avec une assiduité que personne ne songea à juger suspecte. Je me souviens qu'il nous entraîna un jour dans une clairière où se disputait un combat de chevaux. L'une des bêtes en lice appartenait à son oncle. Tout en observant l'assaut, Wutan m'expliqua le dressage, me raconta les confrontations qui avaient eu lieu les jours précédents, les paris, les plantes utilisées afin d'attiser l'ardeur des combattants. Par amour, sans doute, je me pris à ce jeu brutal. Et tandis que les chevaux écumants ruaient et se mordaient cruellement, excités par les coups de bâton de leur propriétaire, j'imaginais Wutan terrassant Soustre au cours d'un duel dont j'aurais été le prix. J'hurlais pour encourager mon champion. Ainsi passèrent les jours, comme une rivière de lait et de sève de pin coulant au milieu d'un rêve. Hélas, le Thing prit fin et les hommes se séparèrent. La vie reprit son cours et me sembla dès lors morne et sans saveur. Wutan s'éloigna avec ceux de son clan. Le gris de son regard avait viré à l'orage. Son rire s'était tari.
C'est tout pour aujourd'hui. Suite et fin des Noces d'Orage dans notre prochain épisode Utopod 005. Dans l'intervalle, nous vous invitons à visiter notre site www.utopod.com. Une bonne quantité d'infos sur nos émissions, ainsi qu'un article de présentation de l'épisode d'aujourd'hui vous y attendent. Vous y trouverez notamment des liens vous permettant d'acheter des romans de Jeanne Aslen. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en nous laissant un commentaire. Notre site sert aussi à ça. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons vivement à vous abonner depuis utopod.com. N'hésitez pas non plus à parler de notre podcast à toutes les personnes qui, autour de vous, s'intéressent aux gens de l'imaginaire. Nous tenons à rappeler qu'Utopod est un projet à but non lucratif. Ses producteurs travaillent bénévolement. Seuls les dons et le parrainage nous permettront de régler les frais techniques et éditoriaux de base, notamment la rémunération des auteurs que nous visons à court terme. Vous l'aurez compris, vos dons sont les bienvenus. En bas de notre site, cliquez sur l'icône Euro pour nous faire un petit geste. Merci d'avance. Rappelons aussi que le contenu de nos émissions, de même que les textes que nous lisons, sont soumis aux conditions d'utilisation d'une licence Creative Commons, à savoir paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Vous pouvez donc écouter, copier, partager gratuitement nos émissions, mais vous ne pouvez pas en modifier le contenu ni en faire d'utilisation commerciale. Et quel qu'en soit votre usage, vous devrez toujours en indiquer clairement la paternité et la source. Voilà, cette fois c'est vraiment fini pour aujourd'hui. Rendez-vous tout prochainement pour le numéro 5 du Topod. D'ici là, méfiez-vous des guerriers farouches. Des berserkres. Au revoir.